VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 24 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Billon.
Pour commencer, les titres.
En RDC, Félix Tshisekedi s'adresse aujourd'hui aux militants et sympathisants de l'UDPS à Kinshasa.
En Centrafrique, affrontement dans le sud-ouest entre un groupe armé et des casques bleus de la MINUSCA.
Au Cameroun, le SDF, principal parti d'opposition, parle de guerre civile ouverte dans les deux régions anglophones du pays.
En Guinée, deux anciens responsables de l'armée accusés de torture sur de jeunes manifestants devant le tribunal.
Au Canada, une camionnette fonce sur la foule à Toronto, fauchant des piétons. Bilan 10 morts et 15 blessés.
Emmanuel Macron, le président français, est arrivé hier à Washington pour une visite d'État de 3 jours aux États-Unis.
Et ne manque pas notre page sport ainsi que la minute éco.
Pour l'instant, le journal.
Félix Tshisekedi en meeting ce mardi à Kinshasa, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le principal parti d'opposition en RDC, va s'adresser aux militants et sympathisants de son parti près d'un mois après qu'il a succédé à son défunt père. Les autorités de Kinshasa, qui autorisent pour la première fois depuis septembre 2016 une manifestation publique de l'opposition, invitent tout de même l'UDPS à la discipline et au respect des lois du pays. Les détails avec Thierry Kamoudi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Je prends acte de votre meeting et vous invite par conséquent à veiller dans le déroulement de votre activité prévue de 11h à 15h au strict respect de la loi régissant les manifestations et réunions publiques dans notre pays. C'est en ces termes que le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu à l'Union pour la démocratie et le progrès social, autorisant de ce fait la tenue du meeting de ce parti ce mardi 24 avril 2018. Une décision qui tombe comme un signe d'apaisement car c'est depuis septembre 2016 que les autorités de la ville de Kinshasa n'avaient plus autorisé de manifestations publiques de l'opposition. En réaction, l'UDPS, organisatrice du meeting à l'occasion de la commémoration de l'introduction il y a 28 ans du multipartisme au Zaïre de Mobutu, promet une forte mobilisation de ses militants et sympathisants dans la discipline, a souligné son porte-parole Augustin Kabuya. Il s'agira de la première grande activité de Félix Tshisekedi depuis son élection comme président de l'UDPS après le décès de son père Étienne Tshisekedi. Kinshasa, Thierry Kamoudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a affirmé lundi à l'ONU avoir demandé à son gouvernement d'accélérer la mise en œuvre d'un programme de désarmement, démobilisation et réintégration des membres des milices qui sévissent dans son pays. Ces déclarations surviennent alors que le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés dans le pays, issu de l'ex-rébellion musulmane Seleka, vient de menacer de marcher sur Bangui. Le FPRC affirme vouloir agir à la suite d'une opération des casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique contre les milices contrôlant le PK5, un quartier musulman de Bangui, poumon économique de la capitale.
Et sur place en Centrafrique, des affrontements ont opposé dans le sud-ouest un groupe armé récemment créé des casques bleus, a annoncé hier la MINUSCA. Le point avec Morgan Guiriek.
D'après un communiqué de la MINUSCA, les casques bleus sont intervenus dimanche pour stopper des éléments armés du groupe Siriri vers la localité de Gamboula. Ils ont tiré sur les soldats de l'ONU qui ont riposté. Selon une source sécuritaire, 4 personnes ont été tuées, dont un chef du groupe Siriri, qui a vu le jour fin 2017 dans le sud-ouest, qui échappait jusque-là aux violences. Plusieurs provinces connaissent un regain de tension. Après des violences début avril dans le quartier musulman du PK5 à Bangui, des groupes armés de l'ex-Seleka se sont réunis à Kagabandoro pour mettre en place une coordination militaire. L'option de descendre sur Bangui n'est pas exclue, selon Aboubakar Sidi Kali, porte-parole du FPRC de Noureddine Adam. Vendredi, le président Faustin Archange Touadéra a de nouveau prôné le dialogue, mais des membres de la société civile exigent qu'il fasse preuve de fermeté face aux groupes armés. L'ambassade américaine à Bangui estime de son côté qu'il faut traiter les criminels comme tels. La population craint une nouvelle escalade.
Au Cameroun, le Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, estime que la grave crise qui secoue les deux régions anglophones du pays a dégénéré en guerre civile ouverte. Le point avec Marie Benson.
Le SDF a déclaré que la violence dans les régions anglophones du sud-ouest et nord-ouest a dégénéré en guerre civile. Le parti de John Fundi accuse le régime de Yaoundé d'avoir marginalisé les populations anglophones. Joshua aussi, son candidat à l'élection présidentielle prévue fin 2018, demande au président Paul Biya de mettre fin à la guerre qui a déjà fait trop de victimes. Depuis plusieurs mois, au moins 30 militaires et policiers ont été tués. Vendredi dernier, un convoi du gouverneur de la région du Sud-Ouest a été attaqué. Des séparatistes réclament l'indépendance des parties anglophones qu'elles ont symboliquement proclamées en Basonie. L'armée massivement déployée a été accusée de plusieurs extractions. Ces régions ont un besoin grandissant d'aide humanitaire, mais l'accès est difficile pour les ONG.
En Guinée, comparution devant le tribunal de deux anciens responsables de l'armée pour des faits de torture sur de jeunes manifestants. Ces derniers étaient accusés d'avoir lapidé le cortège du chef de l'État pendant la transition militaire en 2010. Abdourahmane Dia.
L'ex-chef de l'armée, le général Nou Thiam, et l'ancien gouverneur de Conakry, le commandant Sékou Resko Camara, inculpé en 2013, était présent à l'audience devant le tribunal de première instance de Dixin dans la banlieue de Conakry. Également présents, de nombreux proches des victimes. Les deux hommes doivent répondre des chefs d'inculpation de torture, séquestration, coups et blessures volontaires. Leur procès s'était ouvert en novembre 2017 avant d'être reporté à plusieurs reprises. Ils sont accusés d'avoir arrêté le 23 octobre 2010, puis torturé dans une gendarmerie de Conakry des jeunes qui étaient soupçonnés d'avoir lancé des projectiles sur le convoi du général Sékouba Konaté qui a présidé une transition militaire de janvier à décembre 2010. 17 victimes présumées se sont portées partie civile, tout comme des associations de défense des droits de l'homme. Interrogé à l'audience, le commandant Sékou Camara a nié les accusations. La prochaine audience est fixée au 25 juin.
En Mauritanie, 3 personnes ont été condamnées hier à des peines d'un an de prison ferme pour avoir traité autrui d'esclaves. Il s'agit là d'une première pour ce type de délit dans un pays où la persistance de pratiques esclavagistes est régulièrement dénoncée par des ONG. Les 3 prévenus ont également écopé d'une amende équivalente à 600 euros. Une loi récente considère comme un délit tout comportement consistant à dénigrer ou à traiter quelqu'un d'esclave.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Canada, le conducteur de la camionnette qui a foncé dans la foule lundi à Toronto, causant la mort de 10 personnes, a agi de manière délibérée, a déclaré le chef de la police de la plus grande ville du pays, Mark Saunders. Le bilan du véhicule bélier lancé à pleine vitesse sur les trottoirs d'une des principales artères de la métropole est passé de 9 à 10 morts et de 6 à 15 blessés, a précisé l'officier. Cependant, les informations disponibles à ce stade indiquent que cet événement ne semble aucunement lié à la sécurité nationale, a souligné le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodall, en laissant entendre qu'il s'agissait d'un acte isolé.
Visite d'État du président français aux États-Unis. Après de chaleureuses retrouvailles et un dîner entre couples, Donald Trump et Emmanuel Macron vont tester leur amitié ce mardi en discutant des sujets qui les divisent en tête l'accord sur le nucléaire iranien et la guerre commerciale. Les deux hommes auront un entretien d'une demi-heure en tête-à-tête aujourd'hui. La journée de mardi sera diplomatiquement chargée. Après les entretiens à la Maison-Blanche et une conférence de presse commune, le président français ira déjeuner avec le vice-président Mike Pence et John Sullivan, patron par intérim de la diplomatie américaine, puis il assistera à une cérémonie au cimetière militaire d'Arlington.
La Maison-Blanche a précisé hier que le but ultime de toute négociation entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, c'est la dénucléarisation. Et tant que les États-Unis ne feront pas d'action concrète vers la dénucléarisation, complète et totale, la campagne de pression maximale sur Pyongyang va continuer et les sanctions contre la Corée du Nord ne seront pas levées, a encore dit la porte-parole Sarah Huckabee Sanders. Elle a souligné que Washington n'est pas naïf dans ce processus. Kim Jong-un a annoncé un gel des tests d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Dimanche, le président Trump avait semblé laisser entendre que Kim Jong-un avait déjà accepté de renoncer à son arsenal nucléaire, bien que Pyongyang n'ait pas fait une telle déclaration.
La Commission des affaires étrangères du Sénat a approuvé de façon très serrée la nomination du directeur de la CIA, Mike Pompeo, au poste de secrétaire d'État américain. Il a fallu pour cela le revirement de dernière minute du sénateur républicain Rand Paul, qui s'opposait à ce choix du président Donald Trump, choix qui devra être entériné par le Sénat tout entier avant la fin de la semaine. Pour les démocrates de la commission, M. Pompeo n'est pas la personne qu'il faut pour être chef de la diplomatie américaine, notant qu'il avait préconisé à plusieurs reprises, en tant que député, des solutions militaires pour les points chauds du globe. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Banque mondiale veut renforcer sa capacité de financement en augmentant son capital. L'institution de Bretton Woods envisage de verser le montant pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Société financière internationale. Les deux institutions recevront 13 milliards de dollars. La Banque mondiale espère accroître la capacité de réaction face aux risques qui menacent la stabilité et la sécurité mondiale, notamment dans les pays très pauvres et les États fragiles. Entre 2019 et 2030, la capacité financière moyenne annuelle devra atteindre 100 milliards de dollars. L'Angola a sollicité l'assistance technique du FMI pour mettre en œuvre un nouveau programme de réforme économique axé sur la stabilisation macroéconomique. L'accord permettra d'améliorer la crédibilité extérieure du pays et la capacité à attirer des investissements directs étrangers. D'après le FMI, l'économie angolaise devrait croître de plus de 2% en 2018. Les recettes du pétrole représentent plus de 75% des rentrées fiscales et plus de 90% des recettes en devises étrangères. Parallèlement, l'Angola envisage une renégociation de sa dette publique extérieure de plus en plus pesant pour l'économie nationale. Elle aurait atteint près de 63% du produit intérieur brut en 2017. En janvier 2018, la dette publique extérieure s'élevait à plus de 38 milliards de dollars. Les réserves de change ont baissé à moins de 14 milliards de dollars l'année passée. Luanda a par conséquent envisagé un flottement de la monnaie nationale, le kwanza.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les bouillants supporters d'Al Ahly suspendent leurs activités en Égypte.
Oui, les ultras d'Al Ahly, ce groupe de supporters du club le plus célèbre d'Égypte, mais considéré comme une organisation illégale par les autorités, eh bien ces ultras ont annoncé hier la suspension sine die de leurs activités. Aucune précision n'a été apportée sur le motif de cette décision, mais elle intervient un mois après des violences entre certains de leurs membres et la police à la suite d'un match au Caire entre Al Ahly et le club gabonais du CF Mounana.
Première demi-finale de la Ligue des Champions.
Et deux équipes surprises à ce stade de la compétition qui s'affrontent, Liverpool et l'AS Rome. Un remake de la finale de 1984 remportée par Liverpool à Rome. On rappelle que Liverpool n'était plus arrivé aussi loin dans la compétition depuis 2008. Les Reds ont éliminé Manchester City en quart de finale et sont la meilleure attaque de la compétition cette saison avec 33 buts. Et notamment Mohamed Salah, le meilleur joueur, élu par ses pairs cette saison en Première Ligue. Il faudra se méfier au Stade Olympique de Rome de cette équipe de l'AS Roma qui a éliminé Barcelone au tour précédent. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Houston Rockets ont battu les Minnesota Timberwolves 119 à 100, menant la série à 3 victoires à 1. 3 victoires à 1 aussi en faveur du Utah Jazz après sa victoire 113 à 96 dans sa série avec l'Oklahoma City Thunder.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le mouvement de grève des médecins, diversement suivi à Kinshasa. À l'appel de leur syndicat, les médecins congolais observent une grève dans tous les hôpitaux publics du pays pour protester, disent-ils, contre le non-respect par le gouvernement des accords signés visant à améliorer leurs conditions salariales. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a fait le tour de quelques hôpitaux de la capitale.
À l'hôpital général de référence de Kinshasa, médecins et infirmiers sont visibles avec leur tenue. Mais le service est strictement limité, nous confirme le docteur Kabamba que nous avons croisé sur place.
La grève a bel et bien commencé dans sa forme service polarisé, c'est-à-dire certains hôpitaux qui n'ont pas la charge de recevoir le malade aujourd'hui, comme le cas de l'hôpital général. Nous avons des malades que nous avions hospitalisés depuis longtemps. La grève a commencé aujourd'hui, il faut vous dire que c'est le gouvernement de la République qui a donné les coups de pouce pour que cette grève débute aujourd'hui. Et c'est le même gouvernement qui doit décider de la levée ou de la suspension de la grève.
Les malades interrogés dans notre ronde des pavillons affirment, eux, que les médecins ne passent presque pas les voir. L'un d'eux appelle le gouvernement à très vite trouver un terrain d'entente avec les médecins avant que le pire n'arrive.
C'est très pénible pour nous les malades. S'il n'y a pas de médecins, difficile d'avoir des soins appropriés. En cas d'une forte maladie, il y a des forts risques de perdre sa vie. Je demanderai au gouvernement de pouvoir à nouveau discuter avec les médecins pour trouver une solution. D'ailleurs, le gouvernement était au courant que les médecins iraient en grève, mais il n'a rien fait. Qu'il trouve une solution au plus vite. Au cas contraire, ce sont les malades qui seront dans la rue.
Autre étape de notre ronde, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise dans la commune de Njili, la clinique Ngaliema dans la commune de la Gombe et le centre mère et enfant de la commune de Barumbu. Ici, le personnel soignant est présent. Mais un des médecins qui confirme la grève nous affirme que le mouvement se radicalisera progressivement jusqu'à la réponse du gouvernement aux revendications des médecins.
Effectivement, nous respectons le mot d'ordre qui a été donné. Et comme vous l'avez remarqué, le mot d'ordre est bien respecté et c'est seulement les urgences qui fonctionnent. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement. Il y a des revendications qui ont été formulées et ces revendications ont été couchées dans un protocole qui a été signé entre le gouvernement et les banques syndicales. Nous avons attendu que le gouvernement puisse exécuter ce protocole et jusqu'à ce jour, vous le constatez, le gouvernement ne l'a pas exécuté.
Pour rappel, le syndicat national des médecins a décidé d'un mouvement de grève dans tous les hôpitaux publics de la RDC. Il reproche au gouvernement de n'avoir pas amélioré les conditions salariales des médecins malgré les accords signés entre les deux parties. Ces accords portent sur la promotion des grades des médecins, l'amélioration de leur enveloppe salariale et l'octroi des primes aux nouveaux médecins. Le CINAMED promet de durcir le mouvement dans une semaine si le gouvernement n'honore toujours pas ses engagements. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, l'opposition affirme que les acquis démocratiques du pays sont remis en cause. Elle accuse le pouvoir, je cite, « d'épuration des potentiels candidats à la présidentielle avec l'emprisonnement des principaux challengers, mais aussi et surtout le vote d'une loi sur le parrainage des candidats à la présidentielle ». Malgré les fortes contestations de l'opposition et de nombreux troubles dans la capitale, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay fait le point.
C'est devant la Cour de justice de la CEDEAO que l'opposition sénégalaise compte poursuivre la bataille pour obtenir l'annulation de cette loi sur le parrainage qu'elle juge antidémocratique. Arrêté lors des manifestations de jeudi, Idrissa Seck, opposant et ancien Premier ministre, affirme que cette décision est motivée par la faillite de l'État sénégalais.
La République s'est effondrée, il faut que les gens le sachent. Il n'y a plus de République au Sénégal. Il y a une dictature rampante, debout, volante et violente de constitution.
Du côté de la majorité présidentielle, on estime que cette loi est une consolidation de la démocratie au Sénégal. Abdou Fall, ancien ministre d'État et membre de la majorité présidentielle, affirme que cette loi met en avant l'intérêt du citoyen.
L'enjeu de ce parrainage, c'est réorganiser et rationaliser le vote pour que le jour du vote, on ne se retrouve pas avec une inflation de listes qui rend le vote impossible. Le premier critère de la démocratie, c'est la référence aux citoyens. La démocratie n'a pas de sens sans le suffrage universel. Alors là, on ne vous demande même pas de faire voter, mais au contraire de faire valider votre candidature par des citoyens.
L'opposition soupçonne le pouvoir d'avoir des arrière-pensées politiques en introduisant cette loi à quelques mois de la présidentielle. Des appréhensions jugées légitimes par le directeur exécutif d'Amnesty International. Seydi Gassama estime que le timing choisi par le pouvoir pose problème.
Mais maintenant, attendre à moins d'un an des élections pour proposer une nouvelle réforme, même si cette réforme n'est pas mauvaise en soi, il pose problème. Parce que la classe politique ne s'y attendait pas. La classe politique considère que le temps qu'il aurait imparti pour pouvoir satisfaire cette nouvelle exigence du code électoral, n'est-ce pas, est extrêmement limité. Et qu'il y a d'autre part beaucoup de pièges, et des pièges réels avec cette affaire de parrainage.
Avec la nouvelle loi sur le parrainage, il faudra désormais recueillir 52 000 signatures de citoyens pour espérer être candidat à la présidentielle sénégalaise. Jugée antidémocratique par l'opposition, la loi sur le parrainage est au contraire perçue comme une consolidation démocratique par les membres du pouvoir. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le président français Emmanuel Macron est arrivé hier à Washington pour une visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Parmi les sujets qu'il devrait aborder avec son homologue américain Donald Trump, on n'exclut pas la question des Français qui sont nés américains et sont dans le collimateur du fisc américain. Ils sont tenus de payer des impôts en vertu d'une loi qui se fonde sur leur nationalité et non pas sur leur lieu de résidence. Qu'attendent donc les Français concernés par cette exigence américaine? Éric Manirakiza a joint à Paris le fondateur du collectif français des Américains accidentels, Fabien Lehagre.
Ce qu'on souhaite qu'il soit abordé, c'est d'une, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le territoire français en tant que citoyens français qui avons eu malheureusement le malheur d'être nés sur le sol américain ou d'être nés d'un parent, d'au moins un parent américain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les politiques français ont pris conscience du problème, mais aujourd'hui, à Washington, ils n'en ont pas conscience. Donc ce que l'on souhaite, c'est que le président Macron sensibilise le président Trump, sachant que dans le programme du président Trump, lors de la présidence, il y avait deux propositions qui pourraient résoudre nos problèmes. La première proposition, c'est d'abroger FATCA. Et la deuxième proposition, c'est de passer d'une fiscalité fondée sur la nationalité à une fiscalité fondée sur la résidence. Donc voilà ce qu'on souhaite qu'il soit abordé entre les deux présidents.
Est-ce que le président Macron est-il sensible à cette question ?
Oui. Oui, oui. En tout cas, la majorité présidentielle l'est. Je sais que le président Macron a été sensibilisé par ses équipes. J'ai rencontré certains de ses conseillers par le passé. Donc le président Macron est sensibilisé. Maintenant, la question, c'est comment le président Trump réagira-t-il aux demandes du président Macron. C'est plutôt ça la question.
En dehors de ce que peut faire l'administration américaine, y a-t-il des marges de manœuvre du côté français ?
À travers l'association, nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État au niveau français. Et puis, dans le courant de l'été, nous aurons un débat au Parlement européen sur le sujet, donc sur le sujet des Américains accidentels. Et une proposition de résolution devrait pouvoir être votée, ce qui donnera vraiment un signe très très fort, puisque le Parlement européen, à travers une éventuelle adoption d'une résolution, pourrait clairement exprimer son désir de voir la situation évoluer pour les Américains accidentels.
Et quelles sont les obligations qui s'imposent à vous actuellement ?
Alors déjà, on est confronté confrontés à un certain nombre de discriminations de la part des établissements bancaires. Ça, c'est vraiment les problèmes concrets du quotidien, que ce soit les problèmes d'accès bancaire, de problèmes de prêts immobiliers, de placements financiers. Et pour pouvoir, en fait, se débarrasser de ces problèmes, la solution consiste à renoncer à la nationalité américaine. Parce que dans les faits, cette renonciation paraît bien plus compliquée que sur le papier, puisque ça suppose de se mettre en conformité avec le fisc américain. Et donc, on se retrouve éventuellement à payer des impôts au fisc américain, et les honoraires pour payer les avocats pour réaliser donc ces déclarations, ces mises en conformité sont relativement élevés, et à cela s'ajoute une taxe pour renoncer à la nationalité américaine de $2,350 à payer à l'ambassade américaine.
C'était de Paris Fabien Lehagle, fondateur du collectif français des Américains accidentels.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le terme « fake news » ou, si vous préférez, « fausse nouvelle » est une expression que l'on entend beaucoup ces temps-ci, surtout si vous suivez, par exemple, le président Donald Trump sur Twitter ou d'autres politiciens. Aux États-Unis et à travers le monde, des lycéens tentent de comprendre le concept en apprenant les bases du lexique des médias. Un récit d'Abdourahman Dia.
Nous sommes au lycée Wakefield de Darlington, en Virginie. Ces lycéens apprennent à identifier les fake news. Le professeur de sciences sociales, Patricia Hunt, offre un cours de digital appelé Checkologie. Elle en profite pour donner à ses étudiants des exemples concrets d'informations qui sont soit factuelles, soit mal informées, soit tout simplement fausses. Prenons l'exemple de la récente fusillade de Parkland en Floride, dans laquelle 17 personnes ont été tuées. Elle a demandé aux élèves d'examiner toutes les rumeurs qui ont circulé après l'incident et de lui dire si elles sont vraies ou pas.
On bombarde les élèves d'informations. On les bombarde aussi de soi-disant nouvelles, de fake news, de rumeurs devenues virales ou trompeuses. J'espère qu'à travers mes leçons, ils vont pouvoir discerner le journalisme de qualité, des informations non équilibrées, fausses, de la propagande ou de quelque chose de ce genre.
Les études montrent que les adolescents s'informent principalement à travers les réseaux sociaux et ils ont plus tendance à croire les informations qu'ils reçoivent de leurs amis.
Alan Miller est le fondateur de l'ONG News Literacy Project.
J'ai vraiment été frappé par le fait que les élèves ont tendance à croire que toutes les sources d'informations se valent. Si vous êtes plus jeune, vous pensez qu'une info est sur Internet parce qu'elle était vérifiée et donc vraie. Ils sont plus enclins à y croire et à la partager. Lorsqu'ils arrivent au lycée, ils deviennent un peu plus cyniques et pourraient penser que toutes les informations sont biaisées et qu'il y a toujours un agenda derrière. Ce qui manque à tout ça, c'est la pensée critique.
Cette étudiante va désormais porter un regard beaucoup plus critique envers les réseaux sociaux.
Je sais maintenant faire la différence entre le vrai et le faux et faire plus attention.
Alan Miller, de l'ONG News Literacy Project.
Ce que nous voulons des élèves, c'est qu'ils puissent évaluer la crédibilité des informations qui circulent sur Internet.
Et cela semble marcher.
J'ai appris à vérifier les informations et les moyens de déceler des fausses informations à travers les titres en vérifiant s'il y a des éditeurs.
Des milliers d'enseignants utilisent le cours digital Checkologie aux États-Unis et dans 90 autres pays, permettant ainsi aux élèves de démêler le vrai du faux dans un océan d'informations.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Sim Sloumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.